Zizi présente Franck Ferrand raconte. De Franck Ferrand, lu par l'auteur.
Chapitre 1er. À Hastings, Guillaume soumet l'Angleterre. En ces années 1060, le roi d'Angleterre est un homme faible et malingre, Édouard dit le confesseur. Ce pieux souverain ayant fait vœu de chasteté, il n'a pas eu d'héritier direct. Aussi a-t-il pris la déplorable habitude de promettre sa couronne à tous les ambitieux de passage à Londres, au premier rang desquels le puissant duc de Normandie, alors dans la force de l'âge. Ce Guillaume est né bâtard, son père, Richard, duc de Normandie, ayant, dit-on, séduit une femme du peuple, Arlette, venue laver du linge au pied du château de Falaise. Il a dû, dès l'enfance, batailler ferme pour défendre ses droits. Son ambition ne connaît plus de limites. Tôt ou tard, elle ne pourra qu'entrer en concurrence avec celle du candidat naturel au trône d'Angleterre, Harold de Wessex. Fatalité, par un jour tempétueux de 1064, ce cher Harold dérive au large d'Albion jusqu'à venir s'échouer en terre normande. Conduit au palais de Caen, il est reçu par Guillaume avec tous les honneurs. Mais son hôte est un homme habile. Il profite de l'aubaine pour faire jurer à son rival de lui bailler son aide pour le cas hautement probable où Édouard viendrait à trépasser. Harold n'est guère en position de marchander. Il jure tout ce que l'on veut, la main tendue sur des coffres renfermant, à son insu, toutes sortes de reliques sacrées. 1066. Édouard le Confesseur finit donc par rendre l'âme. Harold va-t-il tenir sa promesse et ouvrir à Guillaume le chemin de Westminster? Mais non! Ramassant la couronne, Wessex la garde pour lui. À Caen, l'on maudit le scélérat, on crie « au parjure !» Voilà donc, pour Guillaume le Bâtard, une occasion d'intervenir. La conjoncture du reste est favorable aux Normands. Outre-Manche, Harold doit faire face à une attaque danoise sur ses côtes septentrionales, les Vikings toujours. Guillaume, de son côté, est épaulé par le comte de Flandre et le roi de France, respectivement père et oncle de son épouse Mathilde. Même le pape Alexandre II, hier encore si dur à son égard, a choisi de soutenir ses ambitions. Ayant confié solennellement son duché aux soins de Mathilde, Guillaume fourbit ses armes et réunit sous sa bannière quelques 7000 guerriers, des Normands certes, mais aussi des Bretons, des Boulonnais, des Picards. Les envahisseurs doivent embarquer pour l'Angleterre dans l'estuaire de la Dive, non loin de notre Cabourg. D'énormes quantités de bois y sont acheminées pour être transformées en navires par une armée de charpentiers. En 6 mois, tout est prêt pour l'aventure du siècle. Le 12 septembre de ce crucial an 1066, l'expédition se dirige par cabotage vers l'anse de Saint-Valery-sur-Somme, d'où la traversée sera plus courte. Problème, les vents sont contraires, et durant une interminable quinzaine, l'on verra patienter Guillaume les yeux rivés sur la girouette du village. Enfin, les vents tournent au sud et le duc embarque sur son Mora et ordonne à tous de larguer les amarres. Vite, il faut à présent cingler vers les côtes anglaises. La nuit venant, ce sont des centaines de petits fanaux qui brillent sur les flots et se rapprochent des falaises blanches. Quant au petit matin du 29 septembre, le soleil dissipe les brumes, l'embarcation de Guillaume apparaît à portée des côtes, un peu en avant de l'armada qu'il convient à présent d'attendre. La mer se couvre de dizaines et de dizaines de voilures. La flotte des Normands va débarquer sur la plage de Pevensey, exactement comme Jules César et ses légions 11 siècles plus tôt. Surprise pour Guillaume et les siens, personne dans un premier temps ne leur oppose de résistance. Les Anglais ne se montrent pas. Harold aurait-il été mal informé? La vérité est ailleurs. Ces mêmes vents du Nord qui, 2 semaines durant, ont retardé l'armada normande, ont au contraire donné des ailes aux Danois. De sorte que Wessex n'a pas eu d'autre choix que de porter au plus vite son armée tout là-haut du côté de Stamford Bridge. Une chance pour les Normands qui, sans perdre de temps, mettent la côte en coupe réglée. Harold n'apprend leur débarquement qu'au premier jour d'octobre. Il décide aussitôt de rentrer à Londres, à marche forcée, mais c'est pour constater la défection d'une partie de ses barons. Le nouveau roi d'Angleterre, celui que les Normands traitent d'usurpateur, devra se contenter, pour contrer Guillaume et ses envahisseurs, d'une armée de 7 à 8 000 hommes. Autant dire que les forces en présence s'équilibrent à peu de choses près. Avant la confrontation, Harold délègue un moine auprès de Guillaume. Son message rappelle les dernières volontés du roi Édouard, qui sur son lit de mort aurait désigné Wessex pour lui succéder. Qu'importe à Guillaume, en réponse, ce dernier envoie en ambassade auprès d'Harold un moine chargé de lui rappeler son serment sur les saintes reliques et sa détermination à l'aider. L'émissaire ajoute que le duc de Normandie propose de plaider sa cause en jugement car il est sûr de son droit et dans le cas où Harold viendrait à redouter le dit jugement, le duc serait prêt à l'affronter en combat singulier dans le but très chrétien d'épargner des vies humaines. Théâtre et gesticulation, désormais c'est inévitable, les armes vont parler. Le 13 octobre 1066, dans la soirée, les deux armées sont en vue l'une de l'autre près du bourg de Hastings. Le roi Harold installe ses troupes au sommet d'une colline, dans une position qu'il pense bénéfique, mais l'endroit est étroit, moins de 500 mètres, ce qui contraint ses hommes à se serrer. Les meilleures troupes anglaises, les housecarls, qui combattent surtout à la hache, seront gênées dans leurs mouvements tournoyants et de son côté, Guillaume prend position dans la plaine. Le 14 au matin, il assiste à la messe et prend soin de porter à son cou certaines petites reliques sur lesquelles Harold avait prêté serment. Il a fait vœu, en cas de victoire, d'édifier sur place une abbaye. Puis il harangue ses guerriers d'une voix chaude et puissante, en leur rappelant qu'ils sont dos à la mer et n'ont par conséquent aucun espoir de fuite. En revanche, leur dit-il, s'ils combattent avec ardeur, la récompense de leur courage sera non seulement l'un des plus hauts faits d'armes de tous les temps, mais aussi, à portée de main, toutes les richesses, toutes les terres grasses, tous les bonheurs de l'Angleterre. Le combat s'engage au matin, très âpre, et même d'une rare violence, une tuerie qui s'éternisera jusqu'au soir. Les Normands montent en hurlant à l'assaut du promontoire de Hastings, mais du haut de cette position dominante, les Anglais criblent les troupes du jeune duc et notamment ses rangées d'archers à l'aide d'armes de jet qui les clouent sur place. Déjà, sur le flanc gauche de Guillaume, des cavaliers et fantassins bretons commencent à battre en retraite. Très vite, la rumeur se répand que le duc de Normandie en personne aurait perdu la vie, tué d'une flèche. Panique chez les Normands. Pour détromper ses propres hommes, Guillaume se voit contraint d'arracher son casque. Il se montre à tous en criant « Je suis vivant, regardez-moi, je suis vivant et je serai vainqueur !» Le courage renaît dans ses rangs. Les Anglais, du haut de leur colline, se défendent admirablement. C'est alors que Guillaume aurait eu l'idée de feindre la retraite. Voyant les Normands détaler devant eux et redescendre la pente, les Anglais se mettent à les poursuivre et, ce faisant, se dispersent en direction de la plaine. C'est exactement ce qu'attendait Guillaume. Ses archers, ses guerriers, faisant volte-face, peuvent plus facilement atteindre l'ennemi. À deux reprises, la même tactique sera couronnée du même succès. Après quoi, le chef normand engage sa cavalerie à prendre les Saxons à revers, leur infligeant de terribles pertes. À cette époque, le gros de l'armée anglaise, le Fyrd, se compose de paysans réquisitionnés doués d'une résistance à toute épreuve, il n'empêche. La bataille tourne maintenant à l'avantage de Guillaume. Harold vient de recevoir une flèche perdue, si l'on en croit la chronique, et il gît dans le sang des siens sur le champ de bataille. La tradition veut que l'on ait fait appel à son ancienne maîtresse pour identifier formellement le corps du malheureux. La mort de Harold et celle de ses deux frères sonnent le glas des prétentions anglo-saxonnes. Libre à Guillaume de faire main basse sur l'Angleterre, ce qui ne veut pas dire que les grands barons lui faciliteront la tâche. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne se presse pas pour venir lui rendre hommage. C'est avec l'aide de quelques centaines de chevaliers seulement que le nouveau roi va devoir s'assurer d'un pays trop vaste pour lui. Le duc de Normandie, devenu maître de l'Angleterre, doit réorganiser les territoires, partager les fiefs et faire accepter par les populations une domination nouvelle. Une fois de plus, dans cette après-conquête, la double culture des Normands va faire merveille. D'un côté, ils n'hésitent pas à s'imposer par la terreur, en écrasant la moindre poche de résistance, comme le faisaient leurs ancêtres vikings. D'un autre côté, en administrateurs avisés, ils s'attacheront à doter l'Angleterre de structures gouvernementales modernes. Encore Guillaume doit-il aller ceindre la couronne d'Édouard. À Londres, ce conseil de grands barons qu'on appelle le Witan vient de lui faire faux bond et d'élire au trône un certain Edgar. Le Normand va-t-il ainsi laisser bafouer son autorité, faisant irruption à Londres? Il s'attache tout au contraire à reprendre en main la situation. C'est ici que le soutien du pape va se révéler d'une aide inestimable. En effet, non seulement Edgar ne trouve aucun évêque pour le couronner, mais les prêtres dans leur paroisse reçoivent l'ordre de vanter les mérites du nouveau maître. Guillaume, de son côté, sent bien qu'il est encore un peu tôt pour se faire couronner, mais il finit par se ranger aux avis contraires. Ainsi donc, lui le bâtard, le simple duc de Normandie va-t-il devenir roi d'Angleterre, l'un des plus puissants suzerains d'Occident? Le sacre se déroule à Westminster, le jour de Noël 1066, sous les auspices du pape, dont la bannière sacrée continue d'accompagner partout Guillaume. Au moment de couronner le nouveau roi, l'archevêque d'York demande rituellement à l'assistance, en français et en anglais, si elle accepte pour souverain le duc de Normandie. La foule acclame alors bruyamment Guillaume, mais au dehors, les soldats à cheval postés près de la basilique se méprennent sur le sens de ces cris. Ils s'imaginent que l'on vient de tuer leur chef et prennent peur. Alarmés, paniqués, ils se mettent en ordre de bataille et, suivant leur bonne habitude, boutent le feu aux maisons des environs. Dans l'abbatiale, la foule horrifiée s'égaille et le couronnement se termine dans un désordre de fin du monde. Guillaume, quoique stoïque, tremble en fait de tout son corps au moment où le prélat lui pose sur la tête la couronne d'Angleterre. Pour tous, ce sacre aura semblé de mauvais augure. Du reste, Guillaume le Conquérant n'est pas au bout de ses peines. Ces graves incidents sont le symbole d'un malentendu profond entre deux pays, deux langues, deux cultures qui n'ont pas grand-chose en commun. Certes, la pression démographique liée à la prospérité normande a poussé Guillaume à étendre son domaine. Mais les terres conquises étaient loin d'être vierges et les Saxons considèrent d'emblée les Normands comme des occupants militaires. La belle synthèse, qui sur le sol de la basse Seine s'était opérée pacifiquement et lentement entre le sang normand et la culture latine, cette osmose est loin d'être accomplie entre l'envahisseur normand et la victime anglaise. Elle n'aura lieu que plus tard et donnera naissance en son temps à une culture riche et féconde, la fameuse culture anglo-normande des XIIe et XIIIe siècles dont les Britanniques d'aujourd'hui sont si fiers. En attendant, pour Guillaume, l'époque d'une vie stable et douce est révolue. Désormais, il lui faut voguer sans cesse d'une côte à l'autre de la Manche. À peine a-t-il réglé les problèmes du Nord qu'il lui faut voler vers ceux du Sud. Loin de fusionner, Normandie et Angleterre restent bien deux pays différents, gérés par le même souverain. Il s'agit d'un des rares exemples dans l'histoire où le chef suprême aura dû partager son temps entre deux États. Or, le conquérant vieillit. En 1083, sa douce et fidèle Mathilde, celle qu'il avait fait couronner à Westminster et avec laquelle il partageait son fardeau, rend son âme à Dieu. Elle le laisse seul, avec très peu de vrais amis. L'année précédente, son demi-frère Odon, l'évêque de Bayeux, a abusé du pouvoir illimité que Guillaume lui avait octroyé outre-Manche. La mort dans l'âme, le roi a dû le faire arrêter. Les difficultés naissent de partout. Barons récalcitrants, révoltes multiples, manœuvres incessantes du roi de France, sans compter les trahisons de ses propres fils. En somme, si la conquête de l'Angleterre reste le plus bel exploit de Guillaume, elle aura aussi été sa pierre d'achoppement. À compter du 14 octobre 1066, tout ce qui lui avait réussi va lui filer entre les mains. À l'automne 1087, le duc roi devenu si puissant, si riche, si glorieux, finira par mourir seul, obèse, aux portes de Rouen. Ses funérailles seront à l'image du sanglant couronnement de Londres, perturbé. Si l'on en croit en effet le grand chroniqueur anglo-normand Orderic Vital, son corps aurait éclaté durant la cérémonie, troublant la foule par des exhalaisons méphitiques.